sur la thématique de l'or et les problématiques en termes de droits humains et d'environnement dans ce secteur en particulier. Et ça nous permettra vraiment pour nous de faire le lien avec une initiative qui est actuellement en discussion au Parlement et qui va être mise à votation en début d'année prochaine, l'initiative pour des multinationales responsables. Je travaille pour cette initiative, je m'appelle Marie Mazina, certains me connaissent peut-être déjà. Et j'ai le plaisir d'accueillir ce soir deux intervenants qui vont pouvoir chacun nous apporter un regard différent sur cette thématique de l'or, deux expériences aussi différentes à ce sujet. Malheureusement, la troisième personne qui était censée intervenir ce soir a dû annuler aujourd'hui pour des raisons de santé, donc elle est vraiment navrée de ne pas pouvoir être présente avec nous ce soir, qui travaille pour la Fédération Romande des Consommateurs, qui était annoncée sur le programme. Vraiment désolée de ne pas pouvoir se joindre à nous ce soir. Alors, déjà pour commencer, on va d'abord discuter avec nos deux intervenants, je ne les ai pas présentés, pardon, nous avons Marc Hummel qui travaille chez Swissair, une ONG qui fait partie de la coalition de l'initiative pour des multinationales responsables et qui est responsable politique de développement dans le secteur des matières premières. Et puis nous avons ici à ma gauche Olivier Ferrari, qui est un entrepreneur, qui travaille dans le secteur des investissements, de la finance, et qui est CEO de Colonco Explorers in Finance, et également cofondateur de One Creation. Il pourra nous en parler aussi un peu plus en détail par la suite.
Oui, bonsoir. Donc c'est vrai que si on parle d'extraction de l'or, il faut d'abord différencier entre l'extraction artisanale et l'extraction industrielle. Il faut savoir que l'extraction industrielle, ça représente environ 80% de l'or minier sur le marché, et l'extraction artisanale représente environ 20%. Par contre, quand on regarde le nombre de personnes qui sont employées dans les deux secteurs, les personnes qui travaillent dans l'extraction artisanale, ça représente environ 85 à 90% des personnes qui travaillent dans ce domaine, tandis que dans les mines industrielles, ça représente seulement 10%. Les problèmes donc, dans les mines industrielles, donc c'est avant tout les pollutions environnementales, donc c'est l'utilisation du cyanure qui pose énormément de problèmes en termes de pollution environnementale au niveau de l'eau. Et les mines industrielles, c'est aussi tout le problème du déplacement forcé des populations. Donc vous avez différents cas qui illustrent ça. Le dernier cas, c'était encore une mine en Tanzanie qui était une filiale de Barrick, donc une entreprise anglaise, et cet or était raffiné ensuite par MKS Pain, donc une société genevoise qui raffine cet or au Tessin. Et là, il y a eu des graves problèmes, non seulement environnemental avec le cyanure, mais aussi de déplacement de personnes. Il faut savoir que généralement, ces sites miniers, c'est des sites qui sont utilisés par la. Enfin, qui sont souvent. Il y a des mineurs artisanaux qui travaillent, et vous avez ensuite les grosses mines industrielles qui se développent, et vous avez ensuite tout ce problème de collaboration entre mines industrielles et mines artisanales. Il y avait notamment ce problème en Tanzanie. Si on regarde le problème des mines artisanales, un des grands problèmes, c'est aussi l'environnement, c'est clair, et là, ce n'est pas l'utilisation du cyanure, mais c'est plus l'utilisation du mercure qui pose d'énormes problèmes de pollution. Il y a le grand problème du travail des enfants. On est le cas du Burkina ou du Mali. Au Burkina, il y a environ 80 000 enfants qui travaillent dans l'exploitation artisanale, environ 100 000 enfants au Mali. Et vous avez tout le problème du financement des conflits que l'on trouve dans différents pays, notamment au Congo, qui sont assez connus pour ça, ou en Colombie, au Sud-Soudan, ou au Liberia. Donc, c'est des groupes armés qui, justement, possèdent ces mines et financent leurs armes et tout le conflit à travers la commercialisation de l'or. Donc voilà un peu les différents problèmes.
Vous avez évoqué les problématiques qui concernaient différents pays. L'extraction de l'or, on peut parler évidemment ici en Suisse, mais quel est le lien avec la Suisse? On a un lien particulier évidemment avec le secteur de l'or, si on pense aux banques, aux raffineries, ou même aux bijoutiers. Quel est ce lien direct?
Donc la Suisse joue un rôle, vraiment c'est la plaque tournante au niveau international. En Suisse, on raffine deux tiers, donc environ 70% de l'or mondial. Et on possède 4 des 6 plus grandes raffineries au monde, dont la plus grande Valcambi. Ces 3 raffineries sont basées au Tessin et une des métallures est basée à Marin, donc dans le canton de Neuchâtel. Donc la Suisse joue un rôle très particulier. On importe entre 2200 et 3000 tonnes d'or par année, pour une valeur comprise entre 60 et 100 milliards de francs. Et le Conseil fédéral reconnaissait dans son rapport sur l'offre qu'il a fait l'année passée le rôle très particulier et très important joué par les raffineries dans toute la chaîne d'approvisionnement de l'or.
Justement, pour ces raffineries, est-ce qu'il y a un moyen de s'assurer pour elles que l'origine de l'or est éthique et responsable? Est-ce qu'il y a une certaine traçabilité pour ces raffineries en Suisse, c'est possible?
Oui, c'est un des gros problèmes, c'est que quand on a des discussions avec les raffineurs qui nous disent qu'ils exercent leur devoir de diligence tout au long de la chaîne d'approvisionnement, qu'ils connaissent chaque mine d'or auprès desquelles ils s'approvisionnent, quand on voit les différents rapports qui ont été publiés ces dernières années, il y a un rapport qui sortira cette semaine par une ONG suisse, on voit que ce n'est pas vraiment le cas et qu'il y a un grand problème de traçabilité de l'origine de l'or. Notamment pour les mines industrielles, on sait d'où vient cet or. Le savoir, ça ne veut pas forcément dire que c'est produit dans des bonnes conditions, mais c'est déjà un premier pas. Par contre, pour les mines artisanales, il y a vraiment un problème. Parce que là, la chaîne d'approvisionnement est beaucoup plus longue, puisqu'il y a beaucoup plus d'intermédiaires. Et on a notamment cette plateforme très importante de l'or artisanal à Dubaï. Et il y a une autre, c'est-à-dire que pratiquement tout l'or artisanal passe par Dubaï avant d'être importé en Suisse. Et quand on regarde les statistiques au niveau des déclarations douanières en Suisse, qui sont publiques depuis 2012, qui étaient bloquées pendant 30 ans, il faut savoir aussi que c'était lié au fait que la Suisse importait de l'or de l'Afrique du Sud sous le régime de l'apartheid. Et maintenant, on a ces statistiques, mais comme vous voyez, si vous voulez, en fait, les raffineurs doivent toujours déclarer le pays d'expédition et le pays d'origine. Mais sur le pays d'origine, c'est chaque fois écrit Dubaï, enfin les Émirats Arabes Unis, et on sait très bien que voilà, il n'y a pas de mine là-bas, mais donc on ne connaît pas l'origine réelle. Et là, ça pose aussi voilà, la question du devoir de diligence. Les raffineries disent qu'elles le font, mais au final, voilà, les différents cas ont montré, c'était le cas par exemple de Métallor au Pérou, c'était le cas d'Arglor au Congo, c'était le cas de Balkambi qui importait de l'or du Burkina Faso qui passait par le Togo. Ces différents exemples montraient qu'au final, ils n'exerçaient pas leur devoir de diligence jusqu'au bout. Et c'est pour ça aussi que cette initiative pour l'immigration responsable est extrêmement importante et toucherait fortement le secteur de l'or.
Alors, on reviendra sur l'initiative après. Là, il y a le tableau un petit peu noir, un peu des problèmes qui concernent le secteur de l'or. Je me tourne maintenant vers vous, Olivier Ferrari. Vous avez développé un partenariat avec une entreprise suisse. Dans le secteur de l'or, justement, vous avez pu vous rendre sur place au Pérou pour visiter les mines. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de cet effort de rendre cet approvisionnement en or durable et éthique surtout?
Volontiers. Bonsoir à tous. Qui a déjà acheté de l'or ici? Qui a des pièces d'or? Pas beaucoup, vous êtes quelques-uns. Juste pour rendre à César, qui est à César, c'est ceux qui ont initié le projet qui sont venus nous voir pour trouver les investisseurs finaux, dire comment écouler l'or, parce qu'ils ont quelques tonnes par année qu'ils extraient et il faut avoir un marché derrière, et ça prend un certain temps. Alors le projet, ça s'appelle le PX Impact. Vous avez une société à la Chaux-de-Fonds, une société familiale des années 70, qui travaille beaucoup avec l'industrie, dans l'horlogère, technologique et autres, avec des gros besoins d'or. Et naturellement, vous vous trouvez, ce qui est intéressant, vous trouvez face à un entrepreneur qui dit il y a un problème, je ne peux pas continuer comme ça. Parce que ce qui est valable pour l'or est valable pour tout le reste, et surtout lié à la multinationale. Et c'est le CEO, là c'est le propriétaire qui est le CEO qui dit on va faire quelque chose. Il rencontre une mine d'or qui est une société qui s'appelle Dynacor, qui est cotée en bourse au Canada. Et là, au Canada, on a un CEO, une fois de plus, qui dit « on ne peut pas continuer comme ça, il y a quelque chose qui ne joue pas, on part dans le mur, comment faire ?» Donc deux entreprises, deux CEO, deux entreprises majeures, bien établies dans leur domaine, ils sont venus nous chercher là. Et en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est que ce CEO au Canada, ils essayaient d'extraire de l'or, et ils ont découvert les mineurs artisanaux, ils se sont dit « il y a quelque chose qui ne joue pas ». Où est-ce qu'ils sont là au Pérou? Vous montez entre 2000 et 3000 mètres d'altitude. Vous avez des zones très arides, ils ont un village qui est à une certaine hauteur, après ils sont sur les collines, et là on voit où ils commencent à rentrer dans la montagne, ils cherchent le filon, ils vont creuser dans des conditions extrêmement difficiles. Après ils extraient, effectivement ils arrivent avec tout le substrat qu'ils ont extrait du filon qu'ils ont trouvé, et ils commencent à séparer des choses, et vont commencer par du mercure. Et ce mercure, ben, des gens qui sont toute la journée sur les balances, on leur met la terre, ils se balancent comme ça, toute la journée. J'ai pu en prendre en photo, là, à côté du nid d'or où on était, à côté, c'était pas déclaré. Au moment où j'ai tourné l'appareil, ils ont disparu quelques fractions de seconde. Ils sont habitués à s'y voir quelqu'un qui les prévient, attention en photo, ben, ne pas se mettre ou se protéger. Et là, il y a un premier extra, on va mettre le mercure, de l'eau et tout ça va être balancé. Et ça descend où? Au village en dessous. Parce que le village est toujours plus bas. Après, il y a la deuxième extraction avec le cyanure. Et là, la même chose, on va extraire, on va nettoyer, et ça part. Et ça va où? Au village plus bas. Ça, c'était la réalité de ce lieu. Ceci, on a dit, on peut faire autrement. On va construire une grande usine, on va dire aux mineurs artisanaux, déjà, on va vous légaliser. Hein, ils sont tous illégaux, majorité. On va vous légaliser, on va vous mettre en place une structure, une usine, vous n'allez plus extraire vous-même, faites-nous confiance, venez nous apporter votre substrat duquel on va travailler pour vous donner de l'or. Alors juste une image, j'avais des chiffres à peu près juste, pour cent de substance que d'or pur que je pourrais tirer d'un tas de rabat, un mineur artisanal va en extraire 50, 55. Par la technologie employée par cette usine, on va en extraire 95-96%. Par une capacité à mélanger des tas de gravats, on en extrait 1 à 2% de plus que les concurrents, 3% de plus sur les marchés. Donc du coup, vu qu'il n'y a plus d'extraction sur place, on n'a plus de mercure, on n'a plus de cyanure, c'est éliminé. Ils doivent arriver à l'usine. Quand ils arrivent à l'usine, alors ce sont des sacs qui sont sur des camions, alors chaque mineur artisanal a son sac, on va les charger, j'ai tout ça, hein, j'ai été les charges en sac, les charges trois sacs, ça dépend des mineurs et autres. Et là, on va extraire cet or, on va extraire cet or, donc on n'a plus d'intermédiaire. La société est en direct avec chaque mineur artisanal. Mineur artisanal, il faut savoir ça, ça peut être un petit groupe d'individus ou un qui a fait sa concession et qui va avoir plusieurs personnes qui travaillent pour lui. D'accord, mais ils sont tous des travailleurs. Donc ils arrivent directement à l'usine. À l'usine, on va extraire, on va encore utiliser du cyanure pour l'extraction, mais ce cyanure est liquide. J'ai des photos, je suis sur un bassin de dizaines de milliers de litres de liquide, il y a du cyanure dessus, je passe une heure, je suis là maintenant, donc pas de problème de santé. J'ai marché sur un dépôt de cyanure où on a la végétation qui repousse. Parce qu'après, avec le temps, sur une vingtaine d'années, il y a l'oxydation, la mutation, et ça redevient des zones où la terre, la végétation pour repousser. Donc on fait une première extraction de là-bas, on va sortir un lingot, et ce lingot part directement du Pérou, de Lima, et arrive à la chaufferie. Donc zéro intermédiaire. Il y a l'usine à disposition des mineurs. Dans l'usine, on a un centre médical qui assiste les gens. Il y a du soin qui est apporté, de l'assistance qui est là. Et le lingot arrive en Suisse, et il rentre chez BX en l'occurrence, et là on a des creusets, où cet or est raffiné au 0,999% pour 1000, et là on a un or qui sort dont on a une totale traçabilité. Alors on est en train d'étudier ce blockchain, va nous aider à améliorer cette traçabilité. D'accord ? Et donc il arrive là, et cet or est mis à disposition de l'économie, des investisseurs. Alors il faut se rendre compte, on n'en a encore pas, on parle de quelques tonnes par rapport au volume total des minières qu'on parlait d'avant. Donc ces quelques tonnes aujourd'hui, il faut se rendre compte, depuis le temps que le projet a été lancé, il est mélangé à de l'autre or aujourd'hui. Mais ce que l'on sait, c'est que le mineur artisanal, on lui a doublé son revenu, on l'a légalisé, et surtout, on lui a changé ses conditions de vie, sa qualité de vie. Mais ce sont les gens, allez pas plus loin que chez nous, dans une montagne, en Valais, Fribourg, Jura, parler d'un paysan qui est rarement descendu en plaine. Avoir la confiance de l'autre, la confiance de celui qu'on ne connaît pas, je dirais de l'étranger, quel qu'il soit, c'est un long dialogue. Et je prends l'exemple, quand j'étais là-bas, on avait un mineur qui n'avait pas confiance. On était voir sa mine et tout, il ne voulait pas être avec la société. Il nous a emmené chez lui, il nous a montré comment il extrait l'or. Il avait un petit four dans lequel il mettait son substrat, il mettait le mercure, on voyait des éclats de mercure, et dessous, il avait toutes ses réserves de légumes et de nourriture pour lui. Et c'était dans ces conditions-là qu'il travaillait. La bonne nouvelle, c'est qu'après, il a une confiance, il a rejoint le réseau. Mais on doit établir des relations avec des gens qui sont un peu chassés ou autres, qui peuvent être inquiétés, qui vivent dans des conditions absolument incroyables, et donner cette confiance pour qu'ils viennent. Donc oui, on a une traçabilité de l'or. Alors, on a un grand, je dirais, commerce international, qui fait des bijoux et autres, qui a fait son propre rapport, on a une ONG qui a fait son rapport, nous-mêmes on a été faire notre rapport. On est tous arrivés à la conclusion, ok, et en plus quand j'ai été là, j'ai eu la chance, on va tous prendre une chance, il y a eu un tremblement de terre, ce qui fait qu'on n'a pas pu aller là où c'était prévu, parce que le tremblement de terre venait d'avoir eu comme un vol en avion, donc ils n'ont pas eu le temps de tout préparer ce qu'ils auraient pu préparer. C'est pour ça que j'ai dit le mot chance dans la chose, parce qu'on sait très bien quand on va évaluer quelque chose, quelle est la préparation de terre, qu'est-ce qu'on va mettre en place. Qu'est-ce qu'on peut bien nettoyer pour que ça soit plus beau, ripolliné quand même. Et donc j'ai pu voir l'humide où ben voilà, c'était pas forcément prévu qu'on vienne, on a pu y aller. Et ces gens, ben, c'est cette étape-là la plus longue à passer. Mais il faut savoir après si on parle au côté son, vu qu'il y a des personnes de nous qui me coupent. Je veux dire, il y avait trois concurrents. Ben, les trois concurrents faisaient du dumping pour gagner des parts de marché. J'ai vu d'un coup sur les prix, ce que la société où on est a refusé, on est actionnaire de Nancy, et elle a refusé de faire ce dumping. Elle a dit c'est vous qui vont mourir. Parce que les trois, ben, depuis que j'ai été il y a une année et demie maintenant, il n'y en a jamais qui est mort. Okay. Donc elle a passé à l'as et on a continué. Et on a continué en mineur, c'est la mort qui vient. Et ils viennent, ils font confiance et ils sont payés tout de suite, une grande partie, puis après le sol raffiné aussi. Parce qu'en Suisse, on va encore extraire quelques éléments d'argent et autres pour arriver à l'affinage total. Donc c'était ça, c'est que franchement quand vous arrivez là-bas, voilà. Alors on sait, on avait tous les rapports qui disaient, il y a à peu près 10%, on ne va pas savoir. On ne va pas savoir si tout d'un coup il y a un ou deux sacs qui viennent d'ailleurs. On était tous autour de 10% et on est dans un monde qui accuse et qui condamne. Et là pour nous, ce n'est pas d'accuser et condamner, c'est de donner confiance à des artisanaux, de nous voir. Le fait qu'on soit grimpé dans la montagne, que, alors je peux vous dire, je suis claustrophobe, j'ai dû aller au fond, 1,5 km dans la montagne. C'est pas évident. 1,80 m la hauteur, je suis 1,97 m. Mais c'est très bête. Il y a le moment où tout devient noir, vous avez juste la petite lumière qui vous fait avancer, et vous entendez un coup au fond. Puis là, vous arrivez, vous voyez des gars qui travaillent dans un petit tuyau, puis qui suivent un filon, qui partait comme si j'ai vu, partait comme ça. Donc, et c'est la journée, hein. C'est 10-12 heures qui sont là-bas dedans, d'accord. Et de cet or que l'on vend avec le PX Impact, qui est au nom de cette société, qui s'appelle PX Admin, le prix, alors elle est 8 fois moins du prix de Massabla, aucun frais pris par Dynacor, PX et nous-mêmes, 100%, pourquoi ? Pour l'éducation pour les enfants, pour améliorer l'outil de travail, si on améliore l'outil de travail, quelque part, plus dans l'efficacité, puis qu'il passe moins du temps dedans, et pour donner du travail aux femmes, pas de l'occupation. C'est un gros problème quand on va dans des pays comme ça. Certains essayent, sous une manière philanthropique et d'assistance ou de soumission philanthropique, de donner de l'assistance. On peut donner un vrai travail aux femmes. Et ça, c'est quelque chose qu'on arrive à faire. Mais c'est une goutte d'eau parmi les 250 000, 300 000 mineurs artisanaux qu'on peut trouver par là-bas. Mais néanmoins, ceux qui ont fait le pas, ils ont quelque chose de plus.
Vous parlez de goutte d'eau, justement, on parlait de quelques tonnes. Marc-Omel, est-ce que, par exemple, ce système, ça pourrait être généralisable à plus de raffineries, d'arriver à, avec un tel système, d'arriver à un système plus propre dans le domaine de l'or ?
Oui, c'est la grande question, c'est comment... c'est clair que pour les mines industrielles, on n'a pas forcément ce problème, mais maintenant, quand on sait que les mines nationales sont en train de se développer fortement. Aujourd'hui, vous avez entre 30 et 40 millions de personnes qui travaillent dans les mines d'or artisanales et qui font vivre environ 100 millions de personnes qui vivent directement de ça. Donc vous voyez l'impact que si ces personnes arrivent à gagner leur vie, ça pourrait avoir un impact énorme. De plus, il faut savoir qu'une mine artisanale, pour produire 1 kg d'or, ça emploie environ 45 personnes. Tandis qu'une mine industrielle, ça emploie, pour 1 kg d'or, ça emploie 0,2 personnes. Donc vous voyez l'impact entre une mine artisanale et une mine industrielle au niveau économique et social est complètement différent. Après, le modèle-là est extrêmement intéressant parce que justement, c'est ce début de transformation qui est en fait repris par une autre entreprise qui fait que justement, on va travailler sans mercure et là, ça sera, en termes d'impact sur l'environnement, sera beaucoup plus grave. Maintenant, c'est très difficile à le généraliser. Enfin, c'est possible, la DDC soutenait aussi un projet un peu du même style en Mongolie. Le projet est arrivé à son terme en 2019 et on pousse tout le monde à s'engager là-dedans. Mais c'est clair que ça a des coûts qui sont très importants. Et aujourd'hui, quand vous voyez, si on regarde en termes de quantité, ça fait que les labels Fairtrade ou Fairmind, on arrive à 1, 2, 3 tonnes d'or apportées en Suisse par année. Vous avez la Swiss Dialogue Association qui est en fait un partenariat public-privé entre Presidox et aussi dedans, c'est un partenariat public-privé entre le SECO, donc l'administration suisse, et le secteur aurifère en Suisse, et qui, eux, s'engagent justement dans trois pays, donc c'est le Pérou, la Colombie et la Bolivie. Et leur objectif, c'est d'arriver à apporter 5 tonnes d'or en fin 2020. Et aujourd'hui, on en est environ à 3 tonnes, 3 tonnes et demie. Donc il y a encore énormément de travail qui doit être fait. Et le coût aussi, c'est là toute la question. Vous avez par exemple Chopard qui s'est engagé l'année passée à vouloir importer que de l'or équitable. Et nous, on est, en tant qu'ONG, bien sûr, on est complètement là-derrière, on les soutient. Mais d'un côté, vous ne pouvez pas non plus attendre que l'or équitable arrive vers vous, puisque le coût est énorme en termes de formalisation. Il faut savoir, comme vous avez dit, qu'il y a peut-être 80-90% des mines artisanales qui sont illégales. Et tout le coût, tout ce processus de formalisation pour que construire des mines soit plus durable, qui soit beaucoup plus protégé, où on ne travaille pas avec du mercure, etc., c'est un coût énorme. Et qui le finance? Et c'est là toute la question. Est-ce que c'est à travers les labels? Est-ce que c'est à travers les gens qui sont à la fin de la chaîne de production? Est-ce que c'est dans les états producteurs? Et c'est là que toutes les questions se posent.
Si je peux, sur le sujet, hein, enfin, deux, trois exemples. Cette nuit, j'ai reçu une demande pour savoir s'il serait possible de développer le projet Vinacor au Côte d'Ivoire. Voilà, on nous explique qu'il y a un problème de raquette, de corruption ou autre qui est derrière, mais est-ce que ça serait possible de traiter des mines artisanaux? Intéressant. Alors, j'y sais plus, parce que ça vient d'Amérique du Sud, le projet. Ça, c'est une chose. Un autre mineur artisanal qu'on a vu, il avait carrément développé une planche avec une petite allure dans le projet d'extraction. Mais il ne recevait pas l'autorisation d'exploiter parce qu'il refusait de payer ce que on lui demandait de payer d'une manière un peu détournée. Et par juste principe et respect de ça, il refusait de payer. Et celui-là, il a rejoint notre projet. Donc on voit qu'il y a de la corruption, il y a des choses comme ça, c'est important. Après, il faut aussi se rendre compte, quand on parle des mines industrielles, pour une tonne de gravats, on va extraire 1, 2, 3 grammes d'or. D'accord? Ça, c'est une mine industrielle. Hier, il a paru en Colombie, il y a une zone qui a refusé à une société anglo-argentine voilà, d'exploiter. Mais ils ont dit non, on a reçu la licence et la région est propriétaire du dessus et l'État est propriétaire du dessous. Donc on va quand même exploiter parce qu'on a l'autorisation de l'État pour aller dessous. Vous voyez ces problèmes-là. Donc oui, il ne faut pas se cacher, la corruption est là. Alors la corruption. Chez nous, on a légalisé la corruption, j'aime bien ce terme. Chez nous, on l'a légalisé, ça s'appelle une commission d'apporteur d'affaires. D'accord? Je te donne une affaire, combien tu me donnes si je te l'apporte? Là-bas, on discute autrement, combien tu me donnes si je te laisse faire ton boulot? Je le dis parce que quand on a fait l'économie quand on est en Afrique, on a apporté des verroteries, de l'or et tout pour préparer les gens, ils en avouent. Aujourd'hui, c'est une commission qu'on demande. Ils ont continué à demander des bacchis, comme on dira, mais question de terme. Voilà, sur cette problématique-là, les mineurs artisanaux, c'est vrai que c'est l'impact sur l'environnement, ben les mineurs artisanaux qu'on parle, on a à peu près 11 d'or hein, par tonne. Donc on est beaucoup plus efficient que ce pourraient l'être ces gros industriels, on utilise plus bon, mais je contredirais le propos de la cherté, ben d'accord, et c'est nous, nous sommes des sociétés, nous gagnons de l'argent. Le processus a été monté. Et il existe et l'usine tourne. Elle est cotée en bourse, elle a une valeur. C'est la notion de combien est-ce qu'on veut gagner, qu'est-ce qu'on veut gagner. Je pense qu'un des grands problèmes de notre société, c'est le gain. Ça rejoint l'initiative multinationale, hein, si je ne fais pas. D'accord. Il y a des mesures à prendre, ça a un certain coût. On réduit les marges. Chez qui on les réduit, pourquoi on les réduit, si j'avais plus marge. Et ça, c'est une autre question.
Si on s'intéresse à ce qui se passe en Suisse, vous disiez que c'était valable, cette Suisse Belle Monde, que c'était valable pour seulement quelques tonnes d'or, donc il faudrait peut-être avoir une législation de manière plus globale. Le Conseil fédéral, vous mentionnez tout à l'heure, a publié un rapport l'année passée qui admettait que l'or qui arrivait en Suisse ne pouvait pas être garanti sans violation de droits humains. Est-ce qu'on peut dire dans un certain sens que en Suisse, le Conseil fédéral fait un peu la politique de l'autruche et préfère ne pas savoir en réalité, ne pas prendre de mesures. Quelle est sa position vis-à-vis de cette problématique?
Oui, c'est vrai. Donc en fait, l'année passée, il y a eu un postulat qui avait été déposé par M. Recourdon en 2015 et le Conseil fédéral a mis 3 ou 4 ans, à 3 ans pour arriver à en fait mandater une étude externe sur le secteur de l'or en Suisse. Et à la suite de cette étude externe, ils ont fait un rapport, et dans le rapport, il est clairement écrit que, enfin, il arrive à la conclusion qu'on ne peut pas exclure que de l'or produit en violation des droits humains soit importé en Suisse. Et vous avez le constat qui est assez clairement posé, qui dit que ni la législation suisse, actuellement en vigueur, que ce soit la loi sur le blanchiment d'argent ou l'ordonnance sur le contrôle des métaux précieux, ni les standards de la branche, donc parce que la branche de l'or a des nombreux standards, dont les deux plus connus, c'est la London Bullion Market Association et la Responsible Jewelry Council, et les deux ont leurs propres standards, que les deux ne peuvent pas non plus, sont insuffisants pour dire qu'on peut importer de l'or en Suisse qui n'est pas produit en relation des droits humains. Et là, c'est tout le problème entre le constat et les recommandations qui sont faites. Parce qu'à la fin du rapport, vous avez 8 recommandations qui sont extrêmement générales. Et si on lit ce constat, les recommandations, ça ne devrait clairement être, il faudra un devoir de diligence obligatoire pour une demande de l'initiative. Mais c'est clairement pas mentionné comme ça. C'est dit, oui, on va augmenter ce que pourrait faire le bureau. On va étendre les compétences du bureau central auprès des métaux précieux. On va augmenter la traçabilité, et concrètement, nous on a vu ça, très bien, on va augmenter la traçabilité. Vous avez des interpellations qui ont été déposées, des questions qui ont été posées au Parlement, des motions qui ont été déposées en juin, et à chaque fois, le Conseil fédéral nous répond non, on ne peut pas améliorer ci, on ne peut pas améliorer ça, toutes les lois sont en vigueur, on va essayer de les appliquer, et vous n'arrivez pas à avancer, à avoir des mesures concrètes pour vraiment améliorer cette traçabilité. Et c'est exactement ce que mentionnait le problème avec Dubaï. C'est qu'on n'arrive pas à changer la législation pour connaître ce que, pour avoir le nom, pour connaître exactement d'où vient cet or qui est importé en Suisse. Et vous avez un recours qui a été fait par une autre ONG en Suisse pour que le nom des exportateurs soit connu, que les raffineurs soient obligés de déclarer le nom de ces exportateurs. L'administration fédérale a dit oui qu'ils allaient publier ça, et les 4 raffineries ont fait recours, et maintenant c'est au tribunal fédéral de trancher sur cette question. Mais on espère vraiment qu'il va y avoir des progrès, et on pousse vraiment un maximum pour que l'écart en fait, entre ce que les raffineries connaissent et les informations qu'ils ont à disposition sur l'origine de l'or, ou qu'ils disent avoir, et en ce qui est demandé par les déclarations douanières, soit comblé pour qu'on puisse vraiment aller à l'origine de l'or. Et cette origine de l'or est extrêmement importante, parce qu'aujourd'hui, quand vous regardez des déclarations douanières entre les pays qui exportent l'or artisanal à Dubaï, et c'est beaucoup d'or africain, c'est souvent de l'or qui est envoyé de manière informelle, c'est des personnes, c'est tous des circuits clandestins, mais qui est ensuite enregistré à Dubaï. Et quand vous regardez des statistiques, c'est-à-dire que vous avez des immenses quantités d'or qui sont importées à Dubaï, qui disent que ça vient de tel et tel pays, ou qui ne sont même pas écrits par tel et tel pays. Et quand vous regardez les statistiques sur l'exportation de ces pays, elles sont beaucoup très inférieures. Donc c'est des millions de francs au final qui sont perdus, puisque ces pays ne peuvent pas taxer cette exportation d'or. Et au final, c'est ce qu'on appelle un peu des flux illicites, et ce qui contribue aussi à l'appauvrissement de ces pays. Et la Suisse, là-dedans, a justement un rôle extrêmement important à jouer.
Vous mentionniez tout à l'heure l'initiative justement pour des multinationales responsables qui, elles, s'attaquent au problème de manière plus large, donc pas que sur le secteur de l'or, mais si on s'intéresse spécifiquement à ce secteur, par quels moyens l'initiative pourrait amener un certain changement? Qu'est-ce qu'elle pourrait modifier ici en Suisse dans les pratiques des multinationales actives dans ce secteur?
Oui, donc l'initiative, il faut savoir qu'elle part simplement d'un problème, c'est que vous avez ces violations des droits humains et de l'environnement par les entreprises suisses, leurs filiales, ou par un contrôle économique de leurs activités à l'étranger. Et tout simplement, l'initiative demande à ce que les entreprises suisses soient responsables des dommages qui causent à l'étranger. Pour le secteur de l'or, il faut savoir que généralement, on a un tel poids, enfin ces raffineries ont un tel poids que généralement elles importent toute la marchandise, enfin toute l'or d'une certaine mine, c'est-à-dire qu'elles ont un contrôle économique sur cette mine, ce qui fait qu'elles seraient directement concernées par l'initiative. Et dans le cas de l'initiative, ça voudrait dire que par exemple, si vous avez le cas de ce cas qui a été mentionné en Tanzanie par la raffinerie PAM, ça veut dire que la raffinerie devrait exercer son devoir de diligence. Enfin, c'est ça qu'on ne comprend pas non plus, parce qu'au final, toutes les raffineries nous disent qu'elles exercent déjà leur devoir de diligence juste dans la mine, qu'elles se rendent sur place, qu'elles regardent, qu'elles font attention. Mais dès qu'on leur dit, bon, ben, dans ce cas, vous devriez aussi soutenir l'initiative, ils disent, ah non, surtout pas, c'est pas possible, ça va trop loin. Donc il y a une grosse contradiction. Mais si l'initiative passe, ça veut dire qu'ils devraient exercer ce devoir de diligence, et s'ils ne le font pas, il y a cette responsabilité civile qui fait qu'une victime d'un pays à l'étranger pourrait venir en Suisse et déposer une plainte, et ensuite la raffinerie pourrait se défendre, ou alors si elle est reconnue coupable, elle devrait payer des dédommagements.
Si je peux permettre une réflexion, je suis un des entrepreneurs qui soutient l'initiative. Hein. Le problème, c'est pas l'application de l'initiative, je parlais avant de l'accusé condamné, on dit que c'était un accusé condamné, c'est la moindre de la pénalité qu'on va avoir. Donc c'est vrai qu'on aimait les lois, les années 80, il y avait une loi sur les gosses d'or, ils ont voulu mettre une taxe, et bien tous les gosses sont partis à l'étranger, à un moment donné. Je veux dire, c'est l'amende qu'on va donner parce qu'on va accuser et condamner. Ce qui est intéressant dans notre projet PX Impact, dans l'accusé pendant un temps, on va mettre en place les structures pour y arriver. Donc après, moi, c'est de dire qui est prêt à acheter de l'or en payant 500 francs de plus le kilo. D'accord ? Et ce qui est intéressant, suivant les investisseurs, les institutionnels, dans le monde où j'évolue, ils ne veulent pas le payer, ces 500 francs de kilo. Parce qu'ils disent, nous, c'est minimum de frais. Donc, des privés, ils sont prêts à le payer tout de suite, cet or. Donc, pour moi, l'initiative, elle est importante parce qu'elle aborde l'aspect, effectivement, environnemental et social, d'accord ? Ce qui me gêne, c'est quelles pourraient être les amendes que l'on va mettre derrière. Et à quoi on va utiliser ces amendes ? Sur la même chose, hein, on vous met une taxe aux 5 en Suisse et vous avez des communes qui diminuent leurs impôts. Qu'est-ce qu'on a fait pour l'environnement ? Sauf qu'aujourd'hui, on a plus de déchets dans la nature parce que les gens ouvrent la fenêtre et gèrent leurs canettes, leurs trucs de cigarettes, qu'ils peuvent traverser la nature. Et c'est là la complexité d'alors. Donc je fais volontairement le méchant petit canard parce que je vois dans mon métier depuis 35 ans dans la finance, en tant que responsable ou patron d'entreprise, c'est toujours l'amende et cette condamnation qu'on va mettre. Donc pour moi, l'initiative fait évoluer les choses, dans la mesure où on ne va pas abuser de celle-ci après, pour des raisons compétitives ou autres, de taper sur X, Y ou Z. Puis je prends une dernière image, quand on parle de responsabilité. Prenez juste la map monde de là où sont les ressources matières premières dans le monde. D'accord ? Et prenez la map monde là où il y a des conflits. Ce qui est surprenant, c'est la superposition. Donc les premiers à condamner sont les États. D'accord ? Alors on va prendre la France, on va prendre les États-Unis, on va prendre l'Angleterre comme des armées qui sont actives, l'Italie qui sont des armées à l'étranger, je suis italien, je me permets de dire. Donc voilà, on va prendre ces États-là, on verra que là où sont les matières premières, le premier responsable est l'État. Que peut le consommateur manifester dans la rue, je manifeste pour le climat, mais en même temps je réserve mon billet pour Barcelone au téléphone, portable. C'est l'année d'avant. Et c'est ces mouvements-là qu'on va prendre. Et c'est là, pour moi, l'initiative est importante de la défendre et d'y adhérer, mais d'être attentif et sage, de dire comment est-ce qu'on va appliquer les postes de bien en truc-là.
Non, mais je suis complètement d'accord avec ça, mais au final, juste pour dire finalement, le but de l'initiative, c'est pas de condamner tel ou tel. Le but de l'initiative, au final, c'est juste que les pratiques changent, que le vrai devoir de vigilance soit appliqué, qu'on fasse vraiment attention à la manière dont c'est produit. C'est plus que ce soit un alibi en disant une mesure volontaire, oui, on le fait, etc. L'idée, c'est juste d'avoir une sorte d'épée de Damoclès où les entreprises savent que si elles ne le font pas, elles vont être condamnées. Et du coup, si elles peuvent potentiellement être condamnées, ben, du coup, ils vont faire plus attention et ça va avoir un impact sur des millions de personnes. Et si on prend juste les cas des 4 raffineries ou 5 raffineries avec Precinox, si eux-mêmes appliquent ce devoir de diligence sur la quantité d'or qu'ils importent, ça pourrait améliorer des millions de. Les conditions de vie de millions de personnes. Donc l'impact pourrait être extrêmement important, de même pour la traçabilité. Si le nom des exportateurs, imaginons que devient transparent, que les raffineries déclarent exactement d'où leur or provient, c'est-à-dire qu'ils vont dire non, on ne va plus travailler avec telle raffinerie à Dubaï, telle raffinerie ne va plus accepter l'or de tel et tel pays, ensuite les législations vont s'améliorer, on va lutter contre tous ces circuits clandestins, il y aura beaucoup plus de taxation, c'est tous des revenus qui vont être générés différemment. Donc au final, c'est un impact extrêmement important. Alors oui, évidemment que, comme vous dites, les conflits, etc., c'est un immense problème, et chacun a sa part à jouer, mais je pense qu'en Suisse, on a aussi notre part à jouer, et notamment dans ce domaine-là, on pourrait avoir un impact important.
L'opposition, évidemment, va venir forcément du lobby des multinationales. L'initiative a été lancée par une coalition d'ONG. Vous faites partie de travailler pour l'une de ces ONG. Vous ne craignez pas un peu le combat de David contre Goliath? C'est impossible à surmonter.
Oui, mais au-delà de ça, je pense que c'est pas... que ce ne sont pas juste des ONG. Alors oui, il y a déjà 115 organisations de la société civile, mais on a aussi des entrepreneurs qui nous soutiennent. Il y a aujourd'hui 140 entrepreneurs qui sont dans l'initiative. Il y a un comité bourgeois. Dick Marty, qui est à fond de 27 initiatives, c'est quelqu'un qui, à la base, n'est pas forcément de gauche. Donc je pense que l'initiative va réussir à aller au-delà du clivage gauche-droite. Et vous avez, quand vous regardez, oui, il y a aussi la question du contre-projet, mais même toutes les entreprises, notamment de négoces, qui sont actives là-dedans, ça montre aussi qu'il y a certaines entreprises qui sont prêtes à aller là-dedans, et qui, enfin, le comité entrepreneur, c'est la même chose, c'est des entreprises qui se disent non, mais on peut changer quelque chose, on peut le faire, c'est quelque chose qui est réalisable, on peut la mettre en œuvre. Donc là, on pense qu'on va le faire. Après, c'est clair qu'au moment, si on entre en campagne, c'est clair que là, ça va être compliqué parce que ça va être de nouveau des arguments de Swiss Holding, l'économie suisse, qui vont nous dire non, mais les entreprises vont quitter la Suisse, l'initiative entre en vigueur, et ça va toujours être le même discours. Mais je pense qu'à un moment, on ne peut plus se cacher derrière ça. C'est un peu le même discours qu'à l'administration fédérale ou le conseil fédéral. C'est de toujours dire oui, mais s'il y a telle mesure qui vient en œuvre, ça va, telle et telle entreprise vont partir, et du coup, les citoyens vont devoir payer plus d'impôts. Mais je pense qu'à un moment donné, il faut savoir ce qu'on veut. Il faut aussi regarder ce qui se passe autour de nous, les législations qui sont autour de nous, que ce soit aux États-Unis, en France, avec les devoirs de vigilance. Les améliorations sont partout, de même avec les raffineries. Sur les minerais responsables, vous avez une législation au niveau européen qui rentre en 2020. Si la Suisse, on ne la met pas en œuvre, je ne sais pas comment nos raffineries vont pas pouvoir exporter sur le marché européen. Donc ça pose quand même énormément de questions. Et on a un peu aujourd'hui ce choix de soit, à mon avis, mais je pense que d'autres personnes le partagent, de soit mettre en œuvre cette initiative en l'acceptant, soit on aura une autre pression. C'est ce qu'on dit souvent avec le secteur des matières premières, qui va peut-être devenir le futur secret bancaire, ou comme ça s'est passé par le passé, ou quand on n'a pas, nous, voulu faire les pas pour améliorer cette situation, ben, la pression est devenue extérieure, elle n'a plus le choix. Donc tant qu'on a le choix, c'est peut-être bien de prendre encore les bonnes décisions.
On parlait justement de certaines entreprises qui poussaient pour aller dans cette direction, que ce soit avec une solution avec le Parlement ou qui sont en train de soutenir l'initiative. Olivier Ferrari, vous êtes actif dans le milieu de la finance, qui est souvent un milieu pointé du doigt, on pense souvent au scandale, si on peut dire, avec des banques qui investissent dans certains projets qui ne sont pas forcément durables. Est-ce que, d'après vous, le milieu de la finance est prêt à aller dans cette direction, dans une direction plus éthique et plus durable?
Trois lettres? Non. Non, je suis dur. La finance aujourd'hui, je pense plus spécifiquement en Suisse, les gens, l'acheteur final, sont des gens qui n'ont qu'une obsession, c'est un maximum d'argent. On a un minimum de temps, on ne bloque pas le capital. Mais je vais aller très loin. À droite, ça va être un maximum d'argent pour donner le meilleur dividende possible à ses actionnaires. Puis à gauche, ces actionnaires sont des fonds de pension dans lesquels il y a des syndicats d'ouvriers qui disent « on ne va pas augmenter les cotisations parce que nos rentes aujourd'hui, avant j'avais une bouteille et une bouteille je remplissais 7 verres, et maintenant avec la même bouteille je dois remplir 10 verres, j'ai 3 ans de plus, j'ai toujours la même bouteille. » Donc on est dans quelque chose de schizophrénique, on marche sur la tête. La finance, oui, génère, on a Sustainable Finance, donc on est sur Sustainable Finance, mais dès qu'on arrive à des mesures pour rediriger la finance vers une économie réelle, on n'y arrive pas. Alors oui, on dit, voilà, les produits financiers qui sont durables, responsables et tout, il y en a de plus en plus. J'ai un ami dans un établissement, il me dit, voilà, c'est un mercredi, lundi, notre chef est arrivé, tous nos produits sont durables. Là, ils ont 200 produits. Quand ils ont dit, ah oui, ils sont durables, mais aujourd'hui, c'est bon, enfin, plus lundi, ils sont durables. Voilà, c'est comme ça, c'est décidé, puis les gens, ils sont contents qu'ils achètent, ils ont une bonne conscience. Donc la traçabilité est l'élément premier. Alors maintenant, qui est responsable de tout ça? Qui a une alliance là? En or, plus ou pas? Je fais de la main. Vous voyez le problème? C'est le problème, je me suis amusé sur Facebook à interpeller les gens, parler du pétrole et autres, il faut sortir du pétrole. Qui est pour, qui est contre? Alors dès qu'il y en a qui disent, moi je suis pour, je trouve c'est bien. Donc vous n'avez plus d'habits en nylon, vous n'avez plus d'objets plastiques chez vous. Ah non, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Mais oui, au départ, il y a une extraction. On a une problématique, c'est qu'il y a une demande, il y a une offre. C'est ce problème de l'offre et la demande. Ce qu'a peur ceux qui sont contre l'initiative, c'est de dire qu'on a eu un déplacement. Ça peut exister. Alors ça veut dire que derrière, il faut dire les pays qui ne respectent pas les lois, qui sont censés les respecter, hein, normalement, mais on ne sait qu'ils ne respectent pas. Regardez les États-Unis, ce qu'ils ont fait à la Suisse, sur le secret bancaire. Or, on savait depuis 1982 que ça allait tomber. Hein. C'était pas un scoop. Je dis, vous allez au Delaware, vous ouvrez votre compte bancaire, vous n'avez pas besoin de donner un nom, vous avez votre compte, c'est ouvert, j'ai votre argent. On a un monde, et c'est quelle est la juste limite. C'est pour ça que moi je parlais, l'initiative est importante, moi c'est son application après, qui voit comment elle va être appliquée pour y arriver, pour aller plus vite, pour accélérer le processus, parce qu'on n'a pas le choix de voir accélérer ce processus. C'est là que j'aimerais mettre le combat à fond avec derrière tous ceux, puisque je suis dedans, tous ceux pour qu'on avance, oui, qu'elle passe. Après, il y a le combat pour dire, n'allez pas trop loin dans les exigences demandées. On a la loi qui est là, évoluons dans la condamnation et surtout l'utilisation des amendes. Hein. Parce que quand on met des amendes, on ne dit jamais où elles vont. Par contre, les comptes d'État, c'est réparti avec la Confédération, les cantons et autres, hein, suivant quelles amendes. Mais c'est moins vrai, effectivement affecté là où ça peut arriver.
Là, en l'occurrence, avec l'initiative des amendes, c'est pas des amendes, mais des réparations pour les victimes.
Oui. Voilà, si on ne met pas 50 intermédiaires qui se suivent au départ. Non, on est d'accord. Voilà, c'est ça la problématique. Vous parlez de la finance ? Non. Dans votre caisse de pension, si on vous dit demain on doit augmenter de 2% les cotisations, vous allez dire les salauds, je ne suis pas d'accord. Le patron qui a payé, le patron dira ok, je vais payer, donc il va augmenter les prix de 3% parce qu'il va payer de la TVA, les taxes et autres pour augmenter ce prix, d'accord ? On va dire regardez, ces salauds, ils ont augmenté le prix. On a un problème de société aujourd'hui. Le troc, on ne peut plus le faire. Ça n'existe plus, ça n'est plus possible. Donc le troc, on l'a valorisé. Maintenant, comment est-ce qu'on valorise ce troc et quel est l'argent qu'on le retire? Bon, j'adore prendre une dernière image. Les forêts primaires, c'est fabuleux, je disais, presque une fête. Les arbres de la canopée qui prennent 80% de la lumière. Et tout en bas, vous avez une vie extraordinaire. Certains n'ont même pas besoin de lumière. Nous, on est dans une société aujourd'hui, et je ne fais pas de politique, mais on veut mettre tout le monde au même niveau. Non, il y a des aspirations différentes, mais c'est vrai que le système économique veut tout le monde aspirer au même niveau pour faire l'unité. Pourquoi ? Pour vendre un maximum. Donc on crée le besoin. C'est un peu en parallèle, mais c'est là que l'initiative multinationale, oui, 100% court, comme vous demandez de joindre, parce qu'il faut faire quelque chose, il faut oser. Il faut y aller. Moi, j'aimerais qu'elle passe, fondamentalement, j'aimerais qu'elle passe. Si elle ne devait pas passer, que ça soit à 47-48% pour qu'il y ait une réaction. Et ça serait déjà une grande victoire.
Donc pour qu'elle passe, il faut aussi que ça passe par les citoyens. Quelles sont les possibilités de mobilisation derrière cette initiative pour les citoyens?
Maintenant, il faut savoir que dans un processus parlementaire, mais c'est clair qu'on voit que déjà toute la pression des citoyens fait augmenter et influe sur les processus parlementaires. Donc il y a la distribution des drapeaux, des sacs qui marchent super bien. Il y a des comités locaux qui ont été créés. Il y en a plus de 250 qui ont été créés. Il y en a aussi à Genève que vous pouvez rejoindre. Si vous connaissez des entrepreneurs, si vous êtes vous-même entrepreneur et ce groupe d'entrepreneurs, il y a énormément de conférences, débats qui sont organisés pour parler de cette initiative. Donc en parler au maximum. Et après, c'est clair qu'on dit toujours, on a l'impression d'être aussi parfois... Alors oui, on peut être des consommateurs responsables, je vous rejoins complètement là-dessus, mais je pense qu'on ne peut pas non plus totalement ou à chaque fois victimiser le consommateur. Oui, il a un rôle à jouer, mais des fois, il y a certaines choses sur lesquelles il ne peut pas forcément influencer. Et là, c'est aussi parfois, on se sent impuissant par rapport à ces multinationales qui violent les droits humains à l'étranger. Et là, je pense qu'avec un vote, qu'avec une mobilisation, c'est vraiment un moment qu'il ne faut pas rater, sur lequel on peut vraiment aller d'avant et faire des progrès significatifs.
Il nous reste moins d'un quart d'heure avant de devoir rendre la salle. Donc, ce que je vous propose, c'est d'ouvrir peut-être la discussion au public. Si vous avez des questions, volontiers. Par contre, il faut parler fort ou alors vous amène un micro.
Je vais te faire de côté.
Je m'excuse d'avoir ici tard, mais la pause conférence va finir. Il y a
trop de programmes avec elle, il y a trop de possibilités, trop de choix.
Avec plus d'une demi-heure de retard. Mais bon, je voulais juste faire une remarque. L'autre dit avec raison que les gens ne peuvent pas tout faire, mais il n'empêche qu'il y a des multinationales. Il y a un exemple vraiment typique, c'est avec le cacao. Les pays qui fournissaient le cacao, vu que les multinationales poussent toujours vers le bas les prix, ils utilisaient de la main-d'œuvre locale, mais ils ont dû finalement faire venir la main-d'œuvre du pays d'à côté parce qu'elle était moins chère. Et comme les pressions continuaient toujours à faire baisser les prix, et bien finalement ils ont dû utiliser des enfants. Et donc cette obsession de toujours vouloir baisser les prix pour augmenter leur marge et nous faire payer moins cher, nous sommes aussi responsables à quelque part de toujours vouloir que c'est moins cher. Enfin, je sais qu'il y a des gens qui ne veulent pas ça, mais quand on va en France faire des achats, on le fait dans ce sens-là. Vous payez moins cher et on s'en fout des gens qui sont au chômage en Suisse, parce qu'il y en a plein qui vont au chômage parce qu'on va en France faire des achats. Donc c'est à ce niveau-là. La mondialisation, elle est chez nous aussi.
Merci.
C'est un luxe de pays riches. Nous faisons la même chose en achetant sur Internet. Nous faisons la même chose en transférant nos industries en Asie et en Chine. Ça reste un autre débat. On a confiance, ça m'intéresse. On fait la même chose parce que nous voulons payer moins cher. Il y a 40 ans, la nourriture, c'était, je ne sais plus, c'est 20 ou 22%
dans le.
Non, mais voilà, mais dans le pays, pas de la façon. D'accord, le panier de la ménagère, aujourd'hui c'est 10%. Tu es ce que tu manges, donc je vais essayer de se rendre bien, l'ordinateur ne se mange pas, les dollars non plus. Le problème est là, c'est on parle de cette multinationale, on parle de l'argent, mais aussi moins d'argent, mais quand je fais un crédit, est-ce que ça veut dire quand je fais un crédit à une société, est-ce que moi, banque, je deviens responsable, je suis partie prenante du crédit que j'ai fait à cette société qui, elle, peut exploiter? Vous posez un débat, c'est la boule ou l'œuf, c'est un des problèmes.
D'autres questions, monsieur?
Merci. Juste une petite question. Comment on pourrait établir un cas contre la multinationale en Afrique, par exemple? Si le problème est en Afrique et tout ça en Afrique. Par exemple, l'Angleterre a commencé à faire le plus de jeunes, mais ça coûte très 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 cher d'établir un cas contre la multinationale. Et la deuxième question pour l'exportation, si on a emporté d'or de Bayer. Pour exporter l'or, par exemple, si moi je travaille dans l'entreprise import-export, on doit déclarer l'origine de cet or pour exporter hors Suisse. Comment on fait si la FNDI veut dire ça vient de Dubaï et l'Union européenne sait que ça ne vient pas de Dubaï, ça.
Alors, par rapport à la première question, dans un cadre concret, en fait, c'est la victime elle-même. Donc, ce n'est pas une ONG en Suisse qui peut déposer la plainte, mais c'est la victime elle-même. Alors, évidemment que ce serait aussi l'idée, ou à voir comment elle peut être aidée financièrement à travers des ONG, que ce soit des ONG locales ou des ONG en Suisse, qui pourraient aider la victime à déposer cette plainte en Suisse. Et la plainte devrait être déposée dans le canton où l'entreprise a son siège. Imaginons que Glencore, une victime... de cette pollution au dioxyde de soufre en Zambie, une des victimes arrive dans le canton de Zoug et dépose une plainte auprès du tribunal. Et ensuite, avec tout un dossier, on doit elle-même fournir la preuve que c'est l'entreprise elle-même qui a pollué et que cette pollution a causé telle maladie chez cette personne. Et ensuite, les corps devront se défendre et ensuite, il y aura le jugement du tribunal.
Est-ce qu'on peut forcer le juge pour établir le cas? Parce que normalement, le juge va dire. Je ne sais pas en français comment on dit, mais non fort convenient. Ça veut dire qu'il n'y a pas de preuves en Suisse. Le jour où je ne peux pas aller en Afrique pour chercher des preuves. Ça, c'est le cas. Après l'initiative, je ne sais pas si elle va forcer le juge.
Non, normalement, le juge ne devra pas aller dans le pays, mais il peut demander des études, des expériences, des analyses en plus pour juger le cas. Mais normalement, il va prendre, comme n'importe quel jugement, les deux informations des deux parties pour ensuite juger et prendre une décision. Mais il peut encore demander des analyses supplémentaires. Par rapport à l'autre question, qui était par rapport à l'import-export du site de l'or et importé de Dubaï et ensuite qu'on réexporte depuis la Suisse, c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui en fait. C'est qu'il faut savoir que les raffineries qui sont aujourd'hui à Dubaï ne sont pas certifiées FBMA, donc ils n'ont pas la certification de cette grande association des raffineurs qui regroupe les 70 plus grandes raffineries au monde, ce qui fait que la BMA est très critique envers ce qui se passe à Dubaï et ne donne pas de certification parce qu'elle sait qu'il n'y a pas assez de transparence et on ne sait pas d'où vient l'or. Ce qui se passe, c'est que cet or, généralement, il est déjà raffiné à un degré extrêmement élevé, que ce soit à 29%, donc 24 carats. Il est importé en Suisse, et il est ensuite raffiné par des raffineries suisses, et ensuite il est réexporté. Et quand il est réexporté, dès qu'il passe dans la raffinerie suisse, c'est une sorte de blanchiment, c'est-à-dire que si c'est la raffinerie Valcombi qui va le raffiner, il va sortir en ayant la plaquette Valcombi, et on ne saura plus du tout qu'il venait de Dubaï et au final du Burkina Faso. D'où tout problème d'avoir cette traçabilité d'or.
Un propos, comment la finance pourrait changer ça, être actionnaire de ces sociétés, aller aux assemblées générales et proposer des motions qui, dans le sens d'accusation, condamnation, évité, bien messieurs, nous savons qu'il y a des éléments, êtes-vous prêts, vous, messieurs actionnaires, et plus le conseil d'administration, êtes-vous prêts, vous, messieurs actionnaires, à demander à votre conseil d'administration d'aller dans ce sens, de manière proactive de répondre. Et là, il n'y a pas besoin d'être multimillionnaire, il faut avoir une action de la société. Après avoir une vraie parole et autres, mais c'est une manière qu'on peut agir.
Oui, bonsoir. Je voulais juste mettre une note positive, parce que c'est vrai que en disant qu'on est tous responsables, ce qui est passé est passé. Moi aussi, j'ai une alliance, voilà. À partir du moment où on prend connaissance des éléments, on devient responsable. La connaissance peut aussi que la responsabilité va avec. Pourquoi est-ce que la Suisse peut le faire? D'abord, en raison de la stabilité politique. Parce que c'est pas si facile de déplacer une raffinerie d'or dans un autre pays ou juste chez nos voisins, quand nous savons par exemple qu'ils viennent jusqu'à notre place de Genève avec le gilet jaune pour manifester. Donc ça donne aussi envie aux personnes d'investir dans un pays où la stabilité politique peut être assurée. Et puis la deuxième chose que je voulais dire aussi, c'est que tôt ou tard, le manque d'éthique, on le paye. On le paye chaque fois que quelqu'un a besoin de l'argent. C'est-à-dire qu'on l'a vu avec Volkswagen, ça faisait des années qu'ils vingouillaient au moment où ils ont besoin d'argent. Mais ils sont allés les chercher. On l'a vu, vous l'avez rappelé vous-même, avec nos banques. Depuis 1982, on savait qu'on allait dans le mur. Et qu'au moment où il a fallu renflouer les caisses des États-Unis, ils sont venus nous chercher. Et c'est comme ça. Donc la première chose à vendre, surtout, c'est notre stabilité politique et notre propre confort. Parce qu'au final, c'est nous qui payons le manque d'éthique au moment où les autres ont besoin d'argent.
Ça va juste au-dessus qu'il y avait une question.
Et juste pour réagir à ça, je suis complètement d'accord, mais c'est exactement aussi le problème aujourd'hui. C'est-à-dire que vous avez certaines entreprises qui violent les droits humains ou qui ont des pratiques moins respectables et d'autres qui ont des pratiques respectables. Au final, et je ne joue pas sur un pied d'égalité, donc c'est aussi tout le problème de l'égalité.
Je peux juste faire parenthèse sur ce propos-là. Je suis en train de le faire dans un bouquin. Il y a aussi une question d'histoire d'un pays. Il faut savoir qu'il y a 200 ans à peine, l'enfant, même chez nous, n'était pas considéré. D'accord ? Donc ça, on l'oublie. Donc quand vous avez, je vais dire votre tradition, on ne connaît pas dans votre tradition, mais millénaire, où l'enfant qui est acquis dans une famille est acquis d'une manière corvéable pour permettre à la famille de vivre et qui va y contribuer le plus tôt possible qu'il le peut. Comme j'ai voyagé dans des populations en Afrique très reculées, dans la brousse, il y avait 5-6 enfants qui étaient enterrés autour de la maison. Et les autres travaillaient et allaient à la forêt. Donc on a eu une évolution de mentalité. Et de toute façon, moi, je suis absolument contre le travail des enfants. C'est comment arriver vis-à-vis des gouvernements, on a des chocs culturels, qu'ils soient de quelque origine que ce soit, religieux ou autre, qu'on doit aussi gérer là derrière. Et c'est là que je dis, l'initiative, j'y reviens, est importante, et après de travailler aussi avec les gouvernements et autres, on le fait, les sociétés le font, l'État doit le faire. C'est une chaîne globale, il n'y a pas d'accusation du consommateur, ça c'est l'œuf, la poule, l'œuf, voilà. Mais c'est tout ça. Et on oublie souvent que nous, ici en Occident, on a évolué, je prends une évolution, mais bien, hein, la femme a le droit de vote en Suisse depuis 74, d'accord. Donc c'est pas, vous voyez, ben, vous prenez l'enfant, c'est ça. Et il y a ce travail-là qui est derrière. C'est un travail complexe. Quand on parle d'aller au Pérou, on est aussi dans les mentalités suivant les pays africains. Il y a ça où on est confronté et qu'on va travailler.
Oui, il y a beaucoup de choses pour réagir sur tout ce que vous dites qui est bien intéressant. Je pense que d'abord, la première bonne nouvelle, c'est qu'il y a donc moyen d'extraire de l'or par moyens artisanaux, sans polluer complètement, sans détruire les gens, sans détruire la nature. Je pense que ça, c'est une bonne nouvelle qu'on devrait déjà diffuser partout. J'aimerais aussi rebondir sur la question de la culpabilité, responsabilité individuelle. C'est clair qu'il y a des individus et des sociétés qui ont un peu plus de responsabilité que le simple Pékin. Maintenant, le simple Pékin ou la simple Pékin qui a une alliance, bon, ben, elle a son alliance, mais maintenant qu'elle sait que l'or vient d'endroits très douteux, eh ben, c'est maintenant qu'elle peut agir. On ne va pas se culpabiliser pour des vieilles choses, mais maintenant on bouge. Et puis, vous avez parlé de la carte des mines,
des
conflits. Moi, je peux aussi parler de la carte peuple autochtone et mines et exploitation minière. Parce que là aussi, elle coïncide énormément, de la même manière que la carte, la richesse de la biodiversité coïncide avec la carte des terres autochtones. Et aujourd'hui, la plupart, beaucoup de peuples autochtones dans le monde, et moi je connais particulièrement les Indiens d'Amazonie, j'ai vécu chez les Indiens où il y a plein de chercheurs dans le gouvernement brésilien ne fait strictement rien pour les enlever. Et ça veut dire qu'on est en train d'exterminer des peuples entiers, comme ça. Par les maladies qu'on diffuse, par le racisme des chercheurs d'or qui considèrent les Indiens comme des bêtes, et par la destruction de la terre, par des fusils qui permettent de chasser mieux que des flèches, etc. etc. Et les Indiens luttent en Amazonie, hein, ils se mobilisent. Mais je voulais quand même aussi mentionner ça, parce que même s'ils ne sont pas la plus grande partie du monde, ils sont quand même 375 millions d'habitants, donc je pense que ça vaut la peine de les mentionner. La question que j'ai, c'est de savoir l'Union européenne, qu'est-ce qu'elle fait là? Est-ce qu'elle fait quelque chose au niveau de ce trafic de l'or? Si vous en avez parlé avant que j'arrive, excusez-moi pour la question, mais si vous n'en avez pas parlé, ça m'intéresse beaucoup.
Je n'ai pas d'avis. Je suis à beaucoup
d'affût.
Est-ce
que...
Oui, il y a une loi sur les chaînes d'approvisionnement responsables qui devrait entrer en vigueur en 2020 au niveau de l'Union européenne. Donc là, c'est quelque chose d'extrêmement important au niveau de l'Union européenne. Et là, vraiment, la Suisse devrait la mettre aussi en vigueur plus tard. Maintenant, si l'initiative passe, ça veut dire que ça rentrerait déjà en vigueur. Si elle ne passe pas, il faudrait en tout cas que pour l'or, elle mette en vigueur. Ce qui poserait aussi un défi de toute façon pour les raffineries suisses, parce qu'après, ça poserait un problème pour le marché européen si ce n'est pas adopté en Suisse.
On attend pour une dernière question, peut-être madame en haut, et puis après, malheureusement.
Je vois qu'on parle de responsabilité et de l'initiative des multinationales. Et tu vas parler de la Colombie. Il y a des multinationales comme Chiquitapa, qui avons été la Free Company, qui sont assassinés des mille des ouvriers qui ont osé demander ces droits salariales. Aujourd'hui, entre 2000 et 2005, dans une petite ville de 9000 habitants, 633 ouvriers s'étaient assassinés encore pour Chiquitapa. Et maintenant, il y a totale impunité par rapport à cette situation. Même qu'il y a tous les preuves, comme Cincinnati, que c'était jugé responsable de la multinationale, et qu'il y a tous les témoignages de tout ce qu'ils ont fait pour sa responsabilité et la violation des droits des travailleurs en Colombie, il s'est fait avec tous les multinationales pareil. Est-ce que il y a dans le Parlement c'est ces sujets pour là en politique qu'il y a envers les multinationales?
Oui, donc après pour agir dans un pays concrètement, c'est clair que c'est difficile, mais l'initiative toucherait tous les secteurs et agirait de manière plus au niveau du Nord directement. Après, pour agir directement sur un pays concrètement, ça reste compliqué. Enfin, nous, on a eu des dialogues, par exemple, avec un logo d'Ashanti que vous mentionnez avant, parce que eux, justement, elle était en train d'acquérir une immense zone pour exploiter des parcelles minières, et c'est vrai que le code minier a aussi changé en Colombie et ça posait problème parce qu'à l'époque, normalement, c'était au peuple autochtone de décider eux-mêmes s'ils étaient d'accord qu'il y a telle mine qui vient, parce que ça pourrait créer des emplois, etc. Et maintenant, ça a complètement changé, et c'est au gouvernement entre les surfaces qui doivent prendre des décisions là-dessus. après, quand vous parliez par exemple avec Angogo de la Chantilly, c'est un cas très concret. Elle nous disait, nous, on comprend très bien vos préoccupations. Après, il y a les managers qui sont derrière, il y a les actionnaires. On a investi tellement d'argent dans l'exploration que ça devient très difficile de stopper. Après, quand vous avez le gouvernement derrière, eux, ils voient directement les investissements qui vont arriver dans le pays, les taxes que ces sociétés vont payer, et ils ne voient pas du tout d'impact sur les populations locales. Généralement, vous n'avez pas d'études d'impact qui sont faites, etc. Donc ça pose des immenses problèmes.
Voilà, on va clore la discussion ici. En tout cas, je vous remercie de votre présence. Pour vos questions. Et je remercie également évidemment les deux intervenants de ce soir d'avoir participé à la discussion, d'avoir éclairé sur certains points, à la fois sur l'initiative, sur le secteur de l'eau. Merci beaucoup. Nous avons merci aussi.